Vous écoutez France Culture.
Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le fait qu'on n'avait encore pas fait le débat sur cette question au Phytobar et que le nucléaire est un sujet particulièrement intéressant en discussion publique, ne serait-ce que parce que les occasions sont si rares de débattre de ce sujet. Autre occasion, la sortie d'un numéro des cahiers de la revue Global Chance, qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir à Terre à Terre, cahier spécifiquement consacré au nucléaire et qui s'intitule « Nucléaire, deux points, la grande illusion ». Donc les auteurs vont pouvoir s'en expliquer. Et bien évidemment, l'occasion de fond, qui est également celle qui a présidé à la publication de ce numéro des cahiers de Global Chance, c'est la relance partout annoncée du nucléaire, et surtout brandie, voire parfois même reconnue, comme la solution aux problèmes qui sont en train de s'amonceler, non plus à l'horizon, mais véritablement de manière très proche devant nous. Je pense à la crise pétrolière, au changement climatique, dans lesquels le nucléaire a pu apparaître comme une solution miraculeuse, et chance, la France serait en excellente position justement pour pouvoir aller plus loin et même exporter. Donc merci la balance commerciale. Bref, on voit bien qu'il y a là tout un engrenage dans lequel le nucléaire peut apparaître aujourd'hui comme une solution là où il était autrefois davantage sujet à controverse. Et on a même vu des écologistes se prononcer pour le nucléaire. Les écologistes pour le nucléaire, c'est un mouvement qui existe. Donc la question, le moment est venu de se reposer la question, est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on peut faire autrement, sans ailleurs qu'avec le nucléaire? Alors ce numéro de Global Chance, on le doit évidemment à Benjamin Dessus, qui en est le directeur de publication. Benjamin Dessus, vous êtes économiste de formation, on vous a déjà souvent reçu à Terre à Terre, et on se souvient que vous étiez l'un des trois auteurs du fameux rapport Charpin-Dessus-Pella, qui avait été commandé en l'an 2000 par Lionel Jospin, alors Premier ministre, dans lequel vous faisiez justement une analyse déjà très fine du nucléaire et de la nécessité ou de l'opportunité sur le plan économique de recourir à ce type d'énergie. Bernard Laponche, on vous connaît également, vous êtes polytechnicien, ingénieur, vous avez travaillé au CEA longtemps, vous avez été membre du cabinet de Dominique Voynet, qui était ministre de l'Environnement à partir de 1997, la seule ministre verte de l'Environnement qu'il y ait eu dans les gouvernements français qui se sont succédés. Et vous avez travaillé conjointement, toujours, sur les questions du nucléaire et également sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie. Donc on aura l'occasion de revenir dessus. Yves Marignac, vous êtes quant à vous consultant, vous travaillez pour Wise Paris, qui est une structure qui régulièrement publie des études extrêmement approfondies sur les questions énergétiques et plus spécifiquement sur le nucléaire. On aura certainement l'occasion de revenir sur cette étude qui était parue, je crois, dans les 8 jours qui avaient suivi le 11 septembre 2001, le World Trade Center, étude que vous étiez justement en train de boucler à ce moment-là pour le Parlement européen et dans laquelle on découvrait qu'aucune des installations nucléaires françaises n'était dimensionnée pour subir un choc comme celui qui avait été subi par les deux Twin Towers aux États-Unis. Alors, Benjamin Dessus, peut-être pourriez-vous commencer par nous expliquer Pour quelles raisons vous avez souhaité revenir une fois de plus sur la question du nucléaire?
Je voudrais d'abord dire que je suis plutôt ingénieur qu'économiste, mais ça, ce n'est pas très grave.
Pardon. Ça commence très mal.
Ça commence mal. L'idée de ce numéro est la suivante, c'est qu'effectivement, depuis quelques mois, on nous bassine un peu avec l'idée que le nucléaire, au niveau mondial, va sauver la planète de deux graves défis, qui sont la crise pétrolière et qui est d'autre part le problème du réchauffement climatique. Donc on s'est posé première question, est-ce que vis-à-vis de ces deux défis importants, qui sont des défis qui sont de court terme, tout le monde sait maintenant que la crise pétrolière, malgré les fluctuations qu'on connaît aujourd'hui du pétrole, nous amène à imaginer que d'ici 2020, 2030 ou 2040, on aura un très gros problème de pétrole, de raréfaction du pétrole. On sait aussi que les problèmes du climat qu'on imaginait au moment de Kyoto comme des problèmes vers 2100 sont plutôt des problèmes vers 2030. Autrement dit, si on n'a pas fait suffisamment de gestes avant 2030, on risque de ne jamais arriver à la cible qu'on souhaitait atteindre en 2100. Donc, les échelons de temps se sont rapprochés assez brutalement depuis 5 ou 10 ans. Et c'est à cette aune-là qu'il faut vérifier que les propositions qu'on fait de nucléarisation générale sont efficaces ou pas. Ça, c'était le premier point. On avait d'ailleurs une petite idée sur la question à la vérité déjà. Bon. Deuxième point, devant cette certitude affichée qu'on va sauver la planète avec le nucléaire, on met en avant l'expérience française comme une réussite parfaite. Regardez, les Français qui ont fait ça sont meilleurs que tout le monde, plus beaux, plus propres, plus riches, enfin tout ce que vous voudrez de ce genre. Donc c'était intéressant de refaire un peu l'histoire du nucléaire français et voir ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché. Et c'est ça qu'on a essayé de faire dans ce numéro, et qui est un numéro assez complet, il manque évidemment des choses, mais on a fait un tour de me semble-t-il, assez complet de la question de ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le nucléaire quand on est simplement des experts indépendants. Ce qui est une denrée relativement rare sur le nucléaire en France, car la plupart des experts sont aussi affiliés à des organismes qui font du nucléaire.
Comment est-ce que ça s'explique, justement, l'absence d'experts indépendants dans un pays dans lequel le nucléaire a tant d'importance? Bernard Lapanche?
Oui, mais d'abord, c'est que ça a été organisé comme ça. Si vous voulez, par exemple, les seuls enseignements pratiquement qu'il y a sur le nucléaire, ça a été les troisièmes cycles sur le nucléaire organisés et faits par le CEA et le génie atomique. J'ai enseigné dans les deux, donc je le sais. Le génie atomique qui dépendait aussi du CEA. Et donc cette question du nucléaire, parce qu'il est aussi, il y a un mélange permanent entre nucléaire civil et nucléaire militaire, puisque le CEA est chargé des deux, est restée une question extrêmement, extrêmement confidentielle. Et de ce fait, ceux qui étaient les universités, enfin les autres qui auraient pu s'attaquer à ces questions, ou en tout cas en discuter et faire des formations qui seraient en dehors de ce système, ça a été complètement bloqué. C'est-à-dire c'est une question qui est restée enfermée dans ces forteresses que sont le CEA, EDF et Areva. Et donc, il n'était pas question d'en sortir. Et donc, chaque fois qu'il y a eu quelques tentatives de réaction critique de la part de certains organismes, franchement, les gens se sont fait, pas sanctionner de façon violente, mais si vous êtes un prof de fac, c'est vraiment très mal vu d'avoir une opinion critique sur le nucléaire, par exemple.
Alors, on aura certainement l'occasion de revenir sur ce côté totalement enfermé, voire hermétique, de la chose, du sujet nucléaire, puisque on le verra, ça joue pratiquement à tous les niveaux, cette notion du secret, et pas seulement du secret, mais d'une façon extrêmement orientée de donner des informations. Mais je voudrais qu'on commence à décliner un petit peu les différents chapitres que vous avez constitué dans ce numéro de la revue. Et puis ensuite, on laissera la parole à la salle. Mais avant cela, peut-être effectivement une petite présentation. Vous avez évoqué l'aspect industriel un peu en trompe-l'œil, la réussite française en trompe-l'œil. Alors Yves Marignac, pourquoi et comment est-ce qu'on peut parler de réussite en trompe-l'œil alors que, véritablement, le nucléaire, ça représente quand même 80% de l'électricité française, par exemple, et puis c'est une industrie qui est extrêmement fière de ses très grandes capacités en matière de sûreté, de sécurité, d'exportation.
Alors, il y a deux aspects. Il y a effectivement tous les aspects de bilan qu'on peut faire sur la sûreté, sur la gestion des déchets, etc. Mais simplement sur l'histoire industrielle elle-même, si on regarde un peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit que l'industrie nucléaire triomphante régulièrement s'est trompée à miser sur les mauvaises technologies. Typiquement sur les réacteurs, hein, puisque le CEA à l'origine prônait le développement en France de réacteurs à l'uranium naturel et s'opposait à l'adaptation en France des réacteurs développés par les Américains, réacteurs à eau pressurisée. C'est finalement EDF qui souhaitait utiliser cette technologie, qui a eu raison, mais le CEA s'est battu jusqu'au bout pour essayer de l'empêcher. Le bilan aujourd'hui au niveau mondial, où je crois plus de 80% des réacteurs sont basés sur cette technologie à l'uranium enrichi, donne rétrospectivement complètement raison à EDF. Idem sur l'enrichissement, où le CEA puis Areva ont parié d'abord sur une technologie à diffusion gazeuse qu'ils ont mis en œuvre dans une usine Eurodif à Tricastin, puis sur le remplacement de cette technologie par une technologie extrêmement sophistiquée d'enrichissement par laser. Même lorsque les Américains ont abandonné la R&D sur cette technologie, les Français l'ont poursuivi. Tout ça pour finalement, il y a quelques années, Areva a décidé de lancer le remplacement, le projet industriel de remplacement de son usine d'enrichissement, recourir à la technologie que les autres pays avaient tous adoptée entre-temps, qui est la technologie de centrifugation, et donc finalement se retrouver à acheter, comme tous les autres, la technologie développée par les Britanniques et les Néerlandais après 30 ans de R&D pour rien. Idem, puisque ça c'était les erreurs, disons, de stratégie industrielle, dans
les
le domaine...
stratégies qui avaient un impact sur le développement du programme nucléaire lui-même, ou bien est-ce que là vous parlez simplement de discussions qui ont précédé des prises de décision?
Non, il y a des efforts très importants de R&D et même des développements industriels qui ont été engagés sur ces mauvaises bases. Sur le retraitement également, les décisions qui ont été prises dans les années 70 avec l'idée de faire un programme de surgénérateur, donc une filière de réacteurs fonctionnant entièrement sur le plutonium, qui très vite se sont avérées illusoires. Ce constat-là, au début des années 80, n'a pas empêché de poursuivre l'investissement dans la technologie de retraitement, et on a des rapports internes d'EDF de la fin des années 80 qui expliquent que dès le milieu des années 80, on s'était rendu compte que le bilan du retraitement était économiquement négatif, qu'il n'y avait pas d'intérêt à poursuivre cette filière après l'abandon des surgénérateurs, mais que l'impact de ce renoncement serait tel sur la filière nucléaire française et sur la filière nucléaire internationale en termes d'image, qu'il était préférable de continuer à payer le surcoût pour maintenir une bonne image. Voilà.
Des choix technologiques, enfin, ou en tout cas des technologies qui finalement n'étaient pas les bonnes, c'est-à-dire que la France n'a pas réussi à imposer ou à choisir les technologies qui étaient les plus adaptées, une obligation de recourir à des brevets, à des licences étrangères, pratiquement pour l'ensemble du parc nucléaire. Et puis peut-être aussi, c'est un des points que vous soulevez dans la revue, une surestimation systématique des besoins qui a conduit à un parc totalement surdimensionné.
Alors effectivement, la règle qui était utilisée pour prévoir les besoins de production électrique, c'était un doublement de la production électrique, de la consommation d'électricité tous les 10 ans. Ça, c'était la règle qu'on se fixait dans les années 70. Et c'est sur cette base-là qu'on a lancé le programme de construction de réacteurs français. Et alors que dès le début des années 80, le ralentissement de la croissance de la consommation d'électricité était parfaitement visible, on a poursuivi sur le même rythme. Aux États-Unis, on a abandonné, je crois, 138 projets de réacteurs, essentiellement pour des raisons économiques, parce que la demande ne suivait pas. En France, EDF n'a abandonné aucune commande. On a été au bout du programme, et c'est seulement au milieu des années 80 qu'on a ralenti un peu le rythme de construction de réacteurs, bien trop tard, ce qui amène aujourd'hui une surcapacité.
Mais Benjamin Dessus, c'est formidable, puisque du coup on peut l'exporter, on gagne de l'argent.
On en exporte un petit peu, effectivement, et mais on arrive à exporter que de l'énergie de base, de l'électricité de base. Vous savez que le nucléaire, ça sait faire de l'électricité tout le temps, ça sait pas faire de l'électricité à 8 heures du soir quand vous en avez vraiment besoin. Ça sait pas se moduler et faire de la dentelle. Donc on a trop d'électricité de marchand en base et on en exporte comme ça à l'Allemagne et à un certain nombre de pays. On en exporte pour à peu près 3 milliards d'euros par an. Et on importe beaucoup d'électricité de pointe. On exporte de l'électricité qui coûte pas cher, qu'on vend pas cher, et on importe de l'électricité de pointe qui coûte très cher parce que tout le monde en a besoin au même moment, et avec la bourse de l'électricité, ben vous la payez très cher. Vous la payez souvent 10 ou 20 fois plus cher que celle que vous pouvez vendre la nuit quand personne n'en a besoin. Bien. Donc, en fait, l'échange est relativement déséquilibré. Donc, on en exporte effectivement, mais on n'en exporte pas beaucoup. Et heureusement qu'on en exporte un peu, parce que sinon, notre surcapacité serait encore supérieure, si vous voulez. Le problème du nucléaire, c'est que pour l'utiliser convenablement, il faut le faire marcher à peu près tout le temps. Si vous n'en avez pas besoin tout le temps, ou bien ça vous coûte très cher, vous l'arrêtez, ça vous coûte très cher, ou bien vous essayez de l'exporter. Donc en fait, si on exporte de l'électricité, c'est parce qu'on est surcapacitaire et qu'on aurait un très mauvais rendement économique si on ne le faisait pas, mais ce n'est pas l'inverse.
Alors, c'est un des arguments qu'on entend très souvent, justement, à propos de l'électricité d'origine nucléaire, c'est qu'elle ne coûte pas cher et que donc les ménages français et les industriels français ont beaucoup de chances d'avoir une facture réduite.
Alors ça, c'est une affaire compliquée parce qu'elle se joue dans le secret le plus total. Moi, j'ai eu la chance de participer à un certain nombre d'exercices faits par le ministère de l'Industrie avec des commissions diverses qui essayaient de reconstituer le coût de l'électricité. Jusque à la fin des années 90, ces coûts étaient à peu près transparents. C'est-à-dire que quand on cherchait le coût du nucléaire, le coût d'investissement d'une centrale, on allait voir Alstom à l'époque qui faisait des turbines, on lui demandait le coût de sa turbine et puis on ajoutait des coûts, on essayait de trouver un coût final. En 2002 ou 2003, j'ai eu dans la même commission la surprise d'apprendre que les coûts qui étaient affichés étaient 30% inférieurs à ceux que j'avais étudiés au moment où on avait fait le rapport à Jospin, le fameux rapport Charpin de Supela, dont on parlait tout à l'heure. Il est allé dans un placard aussi sec, c'est pour ça qu'il est fameux. Et dans lequel les mêmes gens m'avaient donné des coûts assez nettement supérieur, à peu près 30% supérieur. Brutalement, en 2003, ils étaient devenus inférieurs, alors qu'on n'avait jamais refait une centrale depuis. Quand j'ai posé la question de savoir pourquoi, on m'a dit c'est secret. C'est secret parce que vous comprenez, c'est forcément confidentiel, parce qu'il y a derrière des intérêts économiques, des intérêts commerciaux. Donc, vous faites partie d'une commission qui est supposée juger des coûts, mais c'est ce que ces coûts sont secrets. Alors, et ça n'a fait qu'empirer. Alors, par contre, ce qu'on sait un peu, c'est ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans le marché du nucléaire qui n'est pas un marché énorme. Actuellement, les coûts affichés, les derniers coûts qu'on avait du ministère de l'Industrie tournaient autour de 1300 euros le kilowatt installé, et les transactions actuelles sont plutôt autour de 3000. Vous voyez qu'il y a quand même un gap tout à fait important. Alors, quand on fait des calculs avec des coûts à 1300 euros, on trouve quelque chose de très rentable. Quand on les fait avec un coût à 3000 euros le kilowatt, vous voyez bien qu'on est dans des circonstances tout à fait différentes. Même chose pour l'uranium. Quand on a fait notre exercice pour Jospin, l'uranium était à 10 dollars le kilo. Aujourd'hui, il est autour de 60 dollars le kilo. Donc tout ça est remis en cause, mais on n'a pas accès à des calculs sérieux.
Alors, avant peut-être de poursuivre sur les questions maintenant de la sûreté, on pourrait peut-être recamper un décor plus vaste. Bernard Laponche parlait du nucléaire dans le monde, puisque là on a déjà un peu vu la filière française. Dans le monde, où il est là aussi question de relance, où en est-on ?
Si vous voulez, c'est curieux parce que la plupart des Français, je veux dire du fait de l'information qu'ils reçoivent, sont persuadés que, bon, la France a beaucoup de nucléaire, mais que, grosso modo, elle est la première, mais tout le monde est un peu comme ça. C'est-à-dire que l'énergie nucléaire au monde est une énergie très importante. Et en fait, quand vous regardez la consommation d'énergie au monde, ce qu'on appelle l'électricité primaire, c'est grosso modo le nucléaire plus l'hydraulique. Hein, c'est les deux qui produisent de l'électricité sans passer. C'est essentiellement les deux qui produisent de l'électricité sans passer par la combustion des combustibles fossiles. C'est à peu près 10% de la consommation d'énergie mondiale. Et du point de vue de l'électricité, c'est moitié-moitié avec un léger avantage, disons, à l'hydraulique, plus l'éolien aujourd'hui. Donc c'est très faible. C'est très faible et c'est finalement que quelques pays, il y a 10 pays pour qui le nucléaire est important. Et sur ces 10 pays, la France arrive en tête avec 80% de la production d'électricité d'origine nucléaire, on l'a déjà dit, mais le deuxième qui est l'Ukraine, c'est 48%, et après ça descend, 30%, les États-Unis 15%, la Russie 12%, l'Allemagne 20 ou 25, le Japon 30%. Donc si vous voulez, d'abord c'est un petit nombre de pays. Ensuite, sur ces pays, la France est de loin le premier. Et le paradoxe, c'est que chaque fois que vous parlez d'électricité dans les discussions internationales, tout le monde, y compris les Français, vante le mérite d'avoir un parc de production diversifié. Pourquoi ? Parce que si on se repose sur une seule source d'énergie, il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement, etc. Donc les pays qui ont 20% de nucléaire, 30% de gaz, 20% d'hydraulique, etc., c'est considéré comme ceux qui assurent le mieux leur sécurité de production d'électricité. Et nous, on a 80%, c'est-à-dire qu'on a recréé une dépendance par rapport à une seule technologie, un seul type de réacteur, et qui, comme l'a dit Yves, ne sont pas forcément, les plus adaptés aux conditions à la fois d'environnement, de sûreté, etc. Donc cette espèce de chose qui est considérée comme un grand succès, en fait, est une erreur fondamentale qui a été commise dans les années 70, c'est-à-dire de mettre le paquet que là-dessus, et sur la base de prévisions tellement outrancières qu'en fait, il y a eu cette surcapacité dont Yves parlait.
Alors là, évidemment, vous pourriez peut-être commencer à poser des questions.
J'ai entendu dire un spécialiste, mais je ne me rappelle plus les détails, qui a parlé de Mitterrand, qu'il aurait laissé tomber un grand projet qui aurait donné une énorme avance de la France sur ce plan, donc dans le développement technique ou technologique. Et qu'est-ce que vous pensez d'une éventuellement perspective de tous les projets qui sont encore dans le stade d'essai au sud de la France, peut-être en rapport avec d'autres pays comme la Suisse, est-ce que ça pouvait amener à diminuer ce risque de déchets et de radioactivité?
Qui veut répondre, Benjamin Dessus?
Sur la deuxième partie de la question, je répondrai volontiers. Sur le projet Mitterrand, ça ne me dit rien du tout, mais peut-être que mes collègues auront une idée. Vous faites allusion au projet ITER, qui est de faire la fusion thermonucléaire contrôlée, qui est un très joli projet scientifique, dont personne ne sait si on arrivera à en faire un premier prototype vers 2050, mais certainement pas avant 2050. Pour l'instant, on est dans une escalade, on fait des réacteurs de plus en plus gros, en se disant qu'il faut qu'ils soient plus gros pour que ça marche. Chaque fois, on multiplie par 10, et puis pour l'instant, ça ne marche pas. Mais imaginons que ça marche. Vers 2050 ou 2060, on aura le premier réacteur industriel. Et donc, ça ne deviendra quelque chose d'intéressant du point de vue quantitatif que vers la fin du siècle. Ça, c'est le premier point. Donc si ça marchait, c'est une solution pour la fin du siècle. Mais je vous rappelle que notre problème, il est entre 2030, 2040, 2050, il n'est pas à la fin du siècle. Avoir quelque chose qui nous résout notre problème à la fin du siècle, si on est tous morts avant, c'est moins intéressant. Tiens. La deuxième question, c'est qu'effectivement, la fusion thermonucléaire ne fait pas de déchets de fission, parce que ça s'appelle la fusion. Donc la fission, ça fait des déchets de fission, mais la fusion fait d'autres déchets. En fait, on promène des neutrons de très forte énergie sur des parois, et instantanément, on ionise absolument toutes ces parois. Et par conséquent, on se retrouve avec des parois qui sont elles-mêmes des déchets. Et comme on pense qu'il faudra changer les parois toutes les quelques années, on aura un joli problème de déchets, de nature différente de celle de la fission, mais un joli problème de déchets aussi. Autrement dit, la fusion thermonucléaire contrôlée, si elle marche, et si elle marche en 2100, aura aussi ses problèmes.
On a une autre question ?
Oui, bonsoir. Dans l'actualité, on a l'élection de Obama. Aux États-Unis, on parle en ce moment d'un investissement important sur la grille du réseau électrique, notamment d'une smart grid qui permettrait de construire un réseau moins dépendant de grosses unités de production. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, de nouveau, Benjamin Dessus.
C'est une des questions importantes de l'avenir. Nous avons vécu les 50 dernières années sur des systèmes qui se centralisaient au maximum, des centrales de plus en plus grosses, qu'elles soient nucléaires ou à charbon ou à n'importe quoi, et avec un réseau descendant qui allait de la centrale vers les gens. Et les gains d'efficacité économique se sont faits par l'effet de taille. Autrement dit, on se disait, une centrale, c'est un système avec des robinets, avec un certain nombre de robinets qu'il faut tourner, des gens pour tourner les robinets, et par conséquent, plus on fait des grosses centrales, il y a toujours le même nombre de robinets, à peu près le même nombre de gens pour faire tourner les robinets, donc ça coûtera moins cher. Et c'est comme ça qu'on a fait des centrales qui sont passées de quelques dizaines de mégawatts à plusieurs milliers de mégawatts. C'est vrai pour le nucléaire, particulièrement, mais c'est vrai aussi pour le charbon. L'inconvénient, en particulier pour le nucléaire, c'est que ces centrales ont un assez mauvais rendement. Quand vous utilisez l'uranium, vous faites 30% d'électricité et vous rejetez à peu près 70% de chaleur dans l'atmosphère. Mais comme vous avez des unités énormes, vous ne savez pas quoi faire de cette chaleur. Vous savez que la chaleur, c'est peu transportable, que les centrales nucléaires, on n'a pas envie de les mettre dans le trou des Halles. Et donc, par conséquent, si on a une énorme quantité de chaleur, on a beaucoup de mal à s'en servir pour aller jusque chez le client final. Si vous voulez, Paris, par exemple, chauffer Paris, c'est à peu près une centrale nucléaire. C'est les rejets d'un site nucléaire. Donc, oui, on n'a pas un Paris toujours à côté d'un site de centrale nucléaire. Alors, on peut faire ça. C'est une des voies. Alors, pendant ce temps-là, le progrès technique se faisait ailleurs. Toutes les nouvelles technologies de fabrication d'électricité, les turbines à gaz, les piles à combustible et les énergies renouvelables sont des choses qui sont généralement de petite taille et qui ne sont pas sensibles à l'effet de taille ou relativement peu sensibles à l'effet de taille. Par conséquent, on va se retrouver assez vite avec des petits outils de fabrication d'électricité qui ont les mêmes rendements et les mêmes performances économiques que les gros, par effet non plus de taille, mais de série. C'est comme quand on fait des voitures, on en fait beaucoup. Quoi. Bien. Donc on se retrouve dans une situation très différente du point de vue technologique dans les 20 ans qui viennent. Alors là, l'idée est de faire un peu ce qu'on a fait en informatique. On a commencé par faire des gros ordinateurs avec des serveurs, et les gens chez eux n'avaient aucune intelligence, ils pouvaient taper des cartes, ils les envoyaient aux gros ordinateurs. Maintenant, on a des petits ordinateurs et on s'échange des informations entre les ordinateurs. On peut très bien imaginer le même type de réseau où chacun chez soi, à des niveaux différents, chez soi ou dans une entreprise, etc., fabrique une partie de son électricité et en reçoit de ses voisins, et assurer la sécurité du réseau par cet échange plutôt que par des gros tuyaux qui mènent d'un point à un autre et qui vont se diffuser dans la nature. Deuxième avantage, si vous êtes près des gens, vous pouvez faire de la co-génération, c'est-à-dire que vous pouvez faire à la fois de l'électricité et de la chaleur, ce qu'on fait systématiquement quand on fait des centrales à charbon, mais on a des chances de vendre la chaleur parce qu'on est à côté. Si vous faites de l'énergie, de l'électricité au pied de votre immeuble, avec une pile à combustible par exemple, vous ferez de l'électricité pour votre immeuble, mais vous aurez aussi de la chaleur au pied de votre immeuble avec laquelle vous pouvez chauffer votre immeuble. Donc les perspectives de cette smart grid sont tout à fait importantes pour deux raisons. Elles utilisent mieux les nouvelles technologies et deux, elles permettent de faire de la co-génération.
On a encore une question.
Oui, puisqu'on a passé en revue les centrales, les différentes technologies qui avaient été envisagées pour des centrales nucléaires, il avait été question de centrales, je crois qu'on appelait hybrides, il y a une dizaine d'années, une méthode, enfin, type de technologie popularisée par Rubbia, sur laquelle manifestement des gens pensaient que c'était la solution définitive. Il y avait un faisceau, une sorte d'accélérateur, plus... Et puis ça a complètement disparu, il devait y avoir une usine pilote en Espagne, et puis on en a pu parler, je voulais savoir ce qu'il en est.
Yves Marignac ?
Oui, l'idée effectivement était d'avoir des machines hybrides, comme vous l'avez dit, où la réaction était contrôlée, disons alimentée et contrôlée par le biais d'un accélérateur. Ça avait été notamment popularisé par Carlo Rubbia. Effectivement, c'est quelque chose qui est passé de mode, visiblement, dans les cercles où on réfléchit des technologies nucléaires du futur. Je pense en particulier à ce qu'on appelle le Forum Génération 4, hein, qui est le forum international réunissant les meilleurs experts nucléaires, des meilleurs pays nucléaires, etc., qui a d'abord défini les critères d'un nucléaire durable à l'horizon 2050, hein, et puis ensuite listé l'ensemble des technologies nucléaires disponibles et choisi, dans sa grande sagesse, hein, celle qui répondrait à ces critères de développement durable. C'est quelque chose qui, personnellement, m'interroge beaucoup parce que la plupart des technologies en question font appel au cycle du plutonium. Pourquoi ? Parce que le principal problème que les ingénieurs du nucléaire ont identifié aujourd'hui dans leurs relations publiques, c'est la gestion des déchets et la gestion de la ressource uranium. Donc faire des filières au plutonium qui permettent de réutiliser la matière, de diminuer théoriquement in fine la quantité de déchets, c'est répondre à la demande du public. C'est juste oublier que le plutonium, évidemment, présente des risques très particuliers du point de vue de la sécurité, hein, et de la prolifération. Et je me dis souvent que si on avait demandé aux 100 meilleurs experts mondiaux de la sécurité internationale et non pas du nucléaire d'imaginer les technologies nucléaires de demain, ils auraient probablement fait un tout autre choix. Donc les technologies en question ne m'apparaissent pas répondre à des critères de développement durable, mais en tout cas, les rubiatrons, puisqu'on appelait ça comme ça, ont disparu du champ de la réflexion.
Alors on va revenir sur les questions de sécurité, mais je voudrais qu'on parle peut-être, qu'on dise quelques mots, Bernard Laponche, sur la sûreté, puisqu'il y a les deux. La sécurité, c'est tout ce qui concerne les risques liés à la prolifération, etc., à la violence. La sûreté, c'est ce qui concerne les risques d'accidents internes au système. Alors, notre système français est réputé extraordinairement sûr, particulièrement fiable, et enfin, il y a des phrases comme ça qui circulent, comme Tchernobyl, ça ne pourrait pas arriver en France, par exemple. Enfin, voilà.
Ouais, si vous voulez, la malédiction de base de toute cette affaire, c'est le fait que le point de départ a été militaire, ce qui n'est pas le cas des éoliennes ou des chauffe-eau solaires. C'est-à-dire que les premières applications, et historiquement, les premières applications ont été l'obtention de la bombe. Et de la bombe et de tout ce qui a suivi, c'est-à-dire un armement nucléaire qui était enfin l'arbalète du XXe siècle, quoi. Et donc, on a développé des usines, les premiers réacteurs, pas du tout pour produire l'électricité, mais pour produire du plutonium. Pour isoler ce plutonium des combustibles irradiés, on a fait le retraitement. Et encore, les usines de La Hague s'appellent UP1 et UP2. UP2 et UP3, ça veut dire usine de plutonium, numéro 2 et numéro 3. La numéro 1, c'était à Marcoule. Donc, le retraitement, son objectif, c'est la production de plutonium. Et troisièmement, on a voulu faire des moteurs de sous-marins nucléaires, et c'est les réacteurs à uranium enrichi et ordinaire. Et on a civilisé ces technologies. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne s'est pas dit au départ, on va essayer de produire de l'électricité avec des moyens qui soient des moyens correspondants à des besoins civils, c'est-à-dire des moyens sur lesquels la sûreté serait assurée, sur lesquels on va réfléchir sur les déchets, etc. Pas du tout. On avait les moteurs de sous-marins nucléaires, donc on en a fait les centrales nucléaires qui ont envahi le monde, ce que disait Yves. C'est le modèle Westinghouse américain qui a été après à peu près répandu partout. On a fait les usines de retraitement pour fabriquer du plutonium. Et après, on s'est dit qu'on pourrait civiliser ça en faisant du superfait des surgénérateurs. Et donc, on est arrivé avec cette puissance militaire au départ, c'est-à-dire ces énormes usines d'enrichissement, ces énormes capacités de recherche-développement qui avaient mis au point tous ces réacteurs, à avoir des réacteurs dits commerciaux qui ont produit l'électricité. Et à l'époque, ni la sûreté nucléaire, ni les déchets n'étaient deux critères de choix. N'étaient deux critères pour dire, ben voilà le type de réacteur qu'on va choisir parce que les risques sont moindres ou les déchets nucléaires sont moindres. Et donc on est parti là-dessus, et cet enchaînement, et en particulier en France, on n'a jamais séparé véritablement la question civile et la question militaire. Le surgénérateur a été soutenu par les militaires parce que le surgénérateur Superphénix fabriquait un excellent plutonium militaire, etc. Alors on est rentré, si vous voulez, dans un espèce de système d'inertie telle que c'est ça qui rend la chose extrêmement difficile. En fait, il faudrait faire table rase, et probablement c'est ce qui se fera. Si vous lisez quelques livres de science-fiction intelligents, vous verrez que les auteurs disent, dans les années 40, que les hommes à la fin du XXe siècle ont essayé de développer l'énergie nucléaire à des fins industrielles sur des bases complètement idiotes, et que donc ça s'est arrêté. Alors je pense que c'est ce qui se passera. Mais enfin, en attendant, les centrales que nous avons, y compris en France, sont des usines à risque. Et ce n'est pas parce que pendant 30 ans, heureusement, il n'y a pas eu d'accident grave, que ça prouve quoi que ce soit. AZF, à mon avis, a démarré en 1930 ou quelque chose comme ça. Elle a explosé 40 ans plus tard. Donc intrinsèquement, les réacteurs que nous avons actuellement, les centrales nucléaires, sont des centrales qui peuvent avoir des accidents de type Tchernobyl. De type de Tchernobyl du point de vue des conséquences. La nature même de l'accident n'est pas exactement la même parce que ce ne sont pas des réacteurs du même type. Et sur les réacteurs exactement du même type, c'est-à-dire à ordinaire et uranium enrichi, il y a eu l'accident de Three Mile Island, qui a détruit totalement le réacteur, qui n'a pas fait une catastrophe parce que la bulle d'hydrogène n'a pas explosé. Mais donc il faut être conscient que cette question du risque d'accident reste tout à fait d'actualité. Simplement, elle n'est pas prise en compte parce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, il n'y a pas d'accident grave. Mais ça ne change pas au fait que ces réacteurs sont intrinsèquement des machines extrêmement dangereuses.
Mais comment est-ce qu'elle est gérée, cette question du risque ? Yves Marignac, il y a quelque chose de troublant à regarder la liste des incidents qui ont émaillé l'histoire du nucléaire en France et d'ailleurs dans le monde depuis une vingtaine d'années, parce qu'on en entend très peu parler. Il y a eu Tricastin l'été dernier. Là, pour une fois, on a senti qu'il y avait une sorte d'émotion et de frémissement autour de cet incident qui avait l'air effectivement assez grave. Je dis « avait l'air » parce que le public, en général, n'arrive jamais à savoir exactement. Et donc, on hésite entre être rassuré par le fait que, finalement, les incidents sont jugulés, c'est bien la preuve que la filière est sûre, ou alors se demander s'il n'y aurait pas anguille sous roche.
Alors c'est un point très juste que vous soulevez en parlant de l'incident de Tricastin, c'est-à-dire le manque de débat sur ces questions en France engendre un manque de culture et donc un manque de recul des médias et du public sur l'importance relative des différents incidents. Et à mon sens, par exemple, l'incident du Tricastin qui a créé une bulle médiatique très importante et entraîné un certain nombre d'actions des autorités en juillet sur un problème d'effluent d'une usine traitant de l'uranium est peut-être moins important du point de vue de la sûreté qu'un autre incident survenu à Tricastin où des barres de combustible, des assemblages combustibles sont restés accrochés aux barres de contrôle quand EDF a voulu soulever le couvercle d'un réacteur pour recharger du combustible. C'est seulement la sixième fois, je crois, dans le monde qu'on a un incident pareil. Et c'était la première fois que non pas un assemblage, mais deux assemblages restaient accrochés, ce qui rendait beaucoup plus difficile la gestion du problème, puisque en essayant d'en rattraper un, on risquait de faire tomber l'autre, etc. Et cet incident-là, on en a très peu parlé. Il s'est produit en août ou septembre et ça n'est pas encore réglé, c'est-à-dire que EDF a dû engager plus d'un mois d'études pour savoir comment le gérer. Donc il y a un fort décalage entre l'importance réelle des incidents et la perception des médias et du public.
Fort décalage également entre le nombre d'incidents qui arrivent jusqu'aux oreilles du public et le nombre d'incidents qui sont recensés.
Tout à fait. Alors ce décalage, une explication possible, c'est l'utilisation systématique depuis plusieurs années d'une échelle de classement des incidents nucléaires, qu'on appelle échelle INES, échelle internationale des événements de sûreté, qui est une échelle dont le critère principal est le risque immédiat de rejet, et non pas des critères de perte de défense en profondeur des différentes barrières de sûreté. Et ce qu'on observe grâce à des informations qui ont été publiées ces dernières années par l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est l'appui technique des autorités sur toutes ces questions, et qui recense systématiquement l'ensemble des incidents. Alors c'est d'abord qu'il y a énormément d'incidents recensés, plus de 10 000 par an, que plusieurs centaines sont jugés événements significatifs, donc ayant une importance du point de vue de la sûreté. Et ce qu'on observe, c'est que le nombre d'incidents jugés significatifs par l'IRSN a tendance à augmenter au cours des dernières années, alors que le nombre d'incidents classés au niveau 1 ou supérieur sur l'échelle INES diminue. Donc on a une déconnexion de l'évolution réelle de la sûreté, de la dégradation d'un certain nombre de paramètres aussi bien techniques sur la tenue de certains composants que les procédures de sûreté, la culture des personnels, etc. Donc toute une série de signaux négatifs, mais qu'on ne retrouve pas dans la communication au public sur des incidents qui sont jugés pas graves puisqu'ils restent tous à des niveaux très bas sur l'échelle de classement et dont le nombre diminue.
C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on minimise l'importance de tels incidents au moment même où ils se multiplient pour des raisons évidentes de vieillissement du parc. Alors il y a le vieillissement du parc, mais je pensais aussi en vous écoutant à un élément qui moi m'est apparu comme vraiment important, c'est la colossale inertie des installations nucléaires. C'est-à-dire qu'elles ont été construites à peu près toutes en même temps, sur une dizaine d'années, à une époque où énormément de paramètres qui aujourd'hui apparaissent comme extrêmement importants pour assurer la sûreté n'étaient absolument pas pris en compte puisqu'on n'avait jamais eu l'occasion d'y réfléchir, tout simplement. Or, pour arriver à transformer une centrale nucléaire, c'est pas simple.
Tout à fait. Alors, c'est effectivement des systèmes extrêmement complexes qui sont, pour l'essentiel, figés au moment de la construction. Et vous avez raison de rappeler que les centrales sont relativement anciennes et plus des trois quarts d'entre elles ont été construites avant un véritable retour d'expérience des accidents majeurs, Three Mile Island et Tchernobyl, dont on parlait tout à l'heure. S'ajoute à ça le fait que la conception du dimensionnement des installations par rapport aux accidents possibles est de plus en plus axée sur une démarche probabiliste, où on essaye d'imaginer l'ensemble des événements possibles, de leur attribuer une probabilité, et on ne s'intéresse qu'aux événements dont la probabilité est jugée suffisamment importante, c'est-à-dire plus d'une chance sur 1 million par an par réacteur. On a observé en France très concrètement les limites de cette approche quand on a connu la tempête de 99 l'accident de la centrale du Blayais, où on a eu simultanément, du fait de la tempête, une perte des lignes électriques qui sont indispensables à l'évacuation de l'énergie du réacteur, y compris et surtout en cas de problème, et une inondation des parties basses de la centrale qui l'a privée d'un certain nombre d'équipements de sécurité. Chacun de ces événements avait été jugé suffisamment probable, mais leur conjonction n'était pas suffisamment probable et donc avait été écartée à la conception de l'installation.
Ça, c'est extraordinaire, parce qu'on retrouve là un mode de pensée qui domine un peu dans tous les domaines aujourd'hui. Comme je pense là, par exemple, aux produits chimiques, aux pesticides, qui sont étudiés un par un, mais on n'évalue jamais le cocktail. Bernard Lapon, je voulais ajouter quelque chose, et ensuite on demandera peut-être s'il y a d'autres questions sur la sûreté.
C'est sur le mode de pensée qui préside à tout ça. Il faut vous rendre compte à quel point, je ne dirais pas si c'est une religion, mais le nucléaire est une nécessité absolue. Je parle au niveau de l'État français dans ses composantes, à la fois l'administration, la plupart des politiques, la haute administration et des boîtes comme le CEA, EDF, etc. C'est une nécessité absolue de caractère comme, bon, il faut gagner la guerre, par exemple. Et par conséquent, les choses dans ce qu'on discute ici ne doivent pas être discutées. Il y a des gens compétents, au bon niveau, qui doivent assurer que, alors, peut-être on n'arrivera pas à éviter les accidents, mais on fera au mieux pour que, etc. Et ces choses-là ne doivent pas être discutées. Et chaque fois qu'il y a eu des débats ou des tentatives de débat, c'était complètement caricatural, parce qu'on sentait que les mecs venaient au débat, mais forcés, ils avaient l'ordre de venir discuter avec les critiques, et pas un instant c'était considéré comme étant quelque chose peut-être d'intéressant, de savoir, ben, après tout, qu'est-ce que pensent les gens, ou qu'est-ce que pensent les gens qui sont aussi des scientifiques mais extérieurs au système, etc. Non, il faut gagner. Et c'est vraiment un état d'esprit totalement militaire.
Vous faites référence là aux deux débats qui ont été organisés par la Commission nationale du débat public.
Ou même n'importe lequel. Moi, j'en ai fait des kilos dans les années 70 où il y avait beaucoup, justement, à la naissance du programme, beaucoup de discussions. C'était pas du tout de considérer que la critique scientifique pouvait apporter quelque chose, par exemple, ou la critique citoyenne, etc. Donc, c'est totalement fermé. Et le meilleur exemple est quand même celui qui s'est passé au moment du débat EPR, et vous vous souvenez peut-être de cet accident de parcours, si je puis dire, c'est que la question a été posée, et qui est pertinente du point de vue du citoyen, de dire si il y a un choc frontal d'un avion gros porteur sur la centrale EPR, la nouvelle qu'on nous présente comme étant la centrale du 21e siècle, donc je ne parle même pas des réacteurs anciens, c'est un choc frontal, c'est-à-dire un avion qui fonce comme il a foncé sur les tours de New York, est-ce que cette centrale résiste? Fondamentalement, c'est une question pertinente. Si on vous met une éolienne, on vous explique qu'il faut demander l'avis des gens pour savoir si les oiseaux ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est quand même plus grave. Bon. Eh bien, la réponse a été, c'est un secret défense. Donc, alors que c'est une question extrêmement simple et bien posée, est-ce que la centrale résiste à un choc frontal? Ce n'est pas des choses très complexes. Elle résiste ou elle ne résiste pas. Ou en tout cas, on peut dire, on a fait les calculs qui montrent que ça résiste, mais on a une incertitude sur les calculs. C'est un secret défense.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions simples et bien posées, là?
Je suis un peu troublé parce que vous m'avez dit une question sur la sûreté. À vrai dire, je ne m'apprêtais pas à poser une question sur la sûreté. Donc, je veux bien passer la parole à quelqu'un d'autre ou alors poser ma question.
Non, mais puisque visiblement, il n'y en a pas sur la sûreté.
Sur le mode de pensée et sur la vérité des coûts. Je veux dire que l'évaluation d'un risque, c'est aussi un moyen de faire de l'argent. Je ne peux pas m'empêcher de faire le rapport avec la crise des subprimes. À l'origine de la crise des subprimes, il y a le fait qu'on a minimisé un risque important, qui était de mélanger des créances pourries avec des créances saines. Là, j'ai remarqué dans un passage précédent que le coût du kilowattheure nucléaire était inconnu, quoi. C'est soit 1300 euros le kilowatt, soit 3000 euros, quoi. Dans ces conditions, il est impossible, je pense, de prendre des décisions convenables quand on ne dispose pas de ce que j'appelle la vérité des coûts, quoi. Pour décider si telle option est préférable à telle autre, encore faut-il s'être mis d'accord sur les faits. Donc il faut que les faits soient communiqués.
Yves Marignac ?
Oui, je crois pas qu'on puisse régler la question de la vérité des coûts du nucléaire là tout de suite. Ça fait des dizaines d'années qu'on bute sur ce problème.
C'est l'objet d'un chapitre dans la revue.
Tout à fait. Non. Ce que je voulais souligner, c'est le fait que, et ça rejoint l'absence de démocratie, l'absence de procédure de discussion et surtout d'évaluation a posteriori, c'est-à-dire qu'on n'a même pas ces mécanismes de rappel. Systématiquement, les coûts d'investissement, d'exploitation, etc., qui ont été présentés dans les rapports officiels, on a toute une série des rapports de la commission Péon des années 70 et 80. Donc systématiquement, les coûts officiels qui étaient présentés se sont avérés, lorsqu'on a commencé à construire les réacteurs en question, plus faibles que les coûts réels. Donc on a toujours vendu le nucléaire aux décideurs et à l'opinion publique avec des hypothèses maximalistes du point de vue des performances et minimalistes du point de vue des coûts.
Bernard Laponche, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ?
Oui, en fait, en plus, on peut dire qu'il n'y a pas de coût de marché du nucléaire, parce qu'il n'y a pas de marché du nucléaire. Si on prend les quatre dernières années, hein, c'est ce qu'on a fait là-dedans, si vous prenez toutes les nouvelles capacités électriques installées au niveau mondial, bon, l'éolien, c'est 6%, et le nucléaire, c'est 2%. Et les autres, c'est l'hydraulique, le charbon, 30, le gaz, 40, le pétrole, très peu. Mais comment voulez-vous, avec 2%, c'est-à-dire en fait deux centrales par an, et encore une en France où on ne sait pas le prix parce que c'est EDF, l'autre en Finlande où on nous annonce tous les jours que le prix augmente de je ne sais pas combien, on peut pas actuellement dire voilà le coût. Parce que il y a très peu de construction d'une part, il n'y a pratiquement pas de marché. Donc, c'est extrêmement difficile. Et c'est s'il y a vraiment des constructions avec des appels d'offres internationaux transparents, où vraiment on sache les coûts et on puisse comparer à une centrale, par exemple à charbon, que là, on pourra donner un chiffre.
Alors, il me semble qu'il y a encore deux éléments dont il faut absolument qu'on ait eu le temps de parler. Et maintenant, le temps commence à presser. C'est d'une part le démantèlement qui a été évoqué et qui est arrivé assez tardivement dans l'histoire du nucléaire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été pris en compte au départ et il semblerait qu'il soit beaucoup plus compliqué qu'on l'avait imaginé, et également la prolifération. Alors Benjamin dessus peut-être sur ces deux questions.
Moi je voulais dire autre chose. Je laisserai mes petits camarades répondre à votre question après.
Non,
c'est qu'on n'a pas du tout parlé de l'effet de serre. On nous vend essentiellement le nucléaire en disant c'est la solution vis-à-vis de l'effet de serre. Et il faut quand même regarder ce que ça veut dire. Nous avons fait un scénario avec un gars du CEA de relance fantastique du nucléaire, en admettant qu'on en met partout chaque fois qu'on peut en mettre, qu'il y a de l'électricité à utiliser, qu'on a besoin de nouvelles centrales, qui a un réseau, en fait, toutes les conditions qui sont bonnes, sans se poser de questions de savoir si les Iraniens sont gentils, les Pakistanais, etc. Si c'est un problème de sauver la planète, on ne se pose pas ce genre de questions. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on relance effectivement le nucléaire de façon imposante. Areva est très content parce qu'il vend beaucoup de centrales nucléaires et les autres aussi. Mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en 2030, c'est encore peanuts. C'est ça qui est tout à fait impressionnant, si vous voulez. C'est que la dynamique du système d'une relance nucléaire vraisemblable, très volontariste, et complètement à côté de la plaque du point de vue des gaz à effet de serre. Peut-être en 2100, mais pas en 2030 ou 2040.
Eh bien voilà, la suite, il faudra la lire dans les cahiers de Global Chance. Je vous avais prévenu. Et oui, je suis désolée, Yves Marignac, Benjamin Dessus, Bernard Laponche, merci d'être venu nous parler un peu de tous les sujets qu'on trouve dans ce numéro des cahiers de Global Chance, nucléaire, la grande illusion, promesses, déboires et menaces. Terre à Terre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous savez que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Rix Legacy, préparation, documentation Laurence Genpin, Anne Bouzon, prise de son et mixage au Phytobar, Andréas Jaffré, Philippe Cabon, réalisation Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.